France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Il est un compositeur, un rien misanthrope et ronchon dans le film Les Musiciens qui sort demain. Frédéric Pierrot sera mon invité à partir de 13h. Mais pour démarrer les midis, on critique aujourd'hui deux titres en littérature étrangère. Prendre la pause, un inédit de Günter Grass, 10 ans après sa mort, et Bleu d'août de la Britannique Deborah Levy. Vous écoutez les midis de culture, à la bonne heure. Et pour débattre autour de la table, Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture dans cette même émission. Bonjour.
Bonjour Marie.
François Angelier, producteur de l'émission Mauvais Genre sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. C'est une beauté du Moyen-Âge, grandeur nature et polychrome. Sa statue a été admirée, adorée même par des générations depuis sa création au XIIIe siècle. Elle, c'est Ute de Ballenstedt, une jeune femme de la noblesse de Naumbourg en Allemagne. Elle trône en majesté dans la cathédrale de la ville, et c'est à ce bijou gothique que Günter Grass consacre le court récit dont nous allons parler, Prendre la pause. L'auteur, prix Nobel de littérature en 99, raconte comment il a découvert cette statue au cours d'un voyage en RDA et comment il en est tombé amoureux fou jusqu'à l'obsession. Ce texte aussi fantaisiste qu'érudit devait au départ faire partie de l'autobiographie de Grass, pelure d'oignon. Il paraît à titre posthume, disons tout juste après la mort de son auteur, sur une traduction d'Olivier Manoni. On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Moi j'étais très curieuse, une traduction inédite de Günter Grass, ça donne envie de s'y plonger. Alors en effet c'est un tout petit livre, mais il est, je trouve, d'une densité folle et d'une érudition une érudition qui ne fait quand même pas peur, c'est-à-dire qu'on peut le goûter, on peut l'appréhender malgré tout, et même si on n'a pas toutes les références auxquelles il fait référence justement, et ça c'est pas très grave. Il a, je trouve, ce livre, le charme désuet du gastronome. Il y a quelque chose, un plaisir très proche du plaisir de la bouche, comme si c'était une langue qui mâche et qui goûte, et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé.
François Angelier, avis rapide.
Pas mieux, je suis tout à fait d'accord. On retrouve Günter Grass à son meilleur, c'est-à-dire à la fois les questions de nourriture, énormément, tout le temps, et d'une nourriture qui est apprêtée, préparée, dégustée, et la littérature participe après de ce festin permanent, et effectivement, c'est Grass, c'est-à-dire qu'il y a une écriture un peu chamboulée, gustative, tout à fait d'accord. Il y a un jeu avec l'histoire de l'Allemagne, avec les chronologies, les durées, les personnages, on ne sait plus très bien qui réincarne qui. C'est vraiment très, très fascinant et très délectable. C'est vraiment un écrivain, quoi.
On écoute un passage de Prendre la pause, Günter Grass, lu pour les midis par Nicolas Berger.
Aujourd'hui, ce sont des restes de pièces de musée dures comme du béton. Alors que le mur ne se dressait plus que par habitude, mais que des deux côtés de son ombre, les puissances continuaient à s'aboyer dessus, fût-ce à mi-voix, arriva sur ma table, par voie postale, une invitation que j'acceptais sans que cela implique grand-chose dans un premier temps. Les noms de villes que l'âge avait rendues grises, Magdebourg, Halle an der Saale, Iéna et Erfurt, promettaient un voyage à rebours dans le temps. On conseillait de faire preuve de patience, les demandes de visa étaient en route. Tandis que nous attendions l'autorisation de franchir la frontière pour pénétrer dans le seul et unique état des ouvriers et des paysans, je me mis, indécis, à feuilleter mes souvenirs médiévaux, à m'imaginer des tablés variés, des plats de viande fortement poivrés, toutes sortes de mets séchés pour accompagner la bouillie de sarrasin et la douceur du brouet de millet au miel. Lorsque, après les atermoiements habituels, on me refusa à deux reprises le visa d'entrée, les papiers arrivèrent enfin munis de leurs tampons, on fixa le trajet étape par étape. Il offrait, ne fût-ce que pour une courte période, l'occasion de faire de brèves visites à Quedlinburg ou Naumbourg, des lieux dont l'histoire était enfouie dans les manuels scolaires de mes jeunes années.
prendre la pose de Günter Grass, Marie Sorbier, je m'attendais à une histoire de statue. Et tous les deux, vous me parlez de gastronomie, de plats, de délectation.
Ça donnait faim quand même, cet extrait déjà. Mais parce que chez Günter Grass, il a... alors, je n'ai pas lu tous ses ouvrages, mais plusieurs fois, en tout cas dans mes souvenirs de lecture, il y a cette appétence pour les festins ou pour les dîners, et notamment avec des personnages qui ne sont pas de son temps et qui ne sont pas réels. Et là, une fois encore, une fois qu'il voit cet ensemble statuaire, donc des 12 fondateurs dans la cathédrale de Naumbourg, son premier réflexe, c'est de les inviter à dîner. Donc il invite ces gens, ces statues, autour de sa table et il dresse un repas. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est caractéristique de Günter Grass, c'est-à-dire ce mélange, en fait, dans son texte, à la fois de comique, parce qu'il y a des passages quand même très drôles, d'esthétique, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, de politique et d'onirique. Alors peut-être sur ce côté esthétique, je trouve qu'il y a des magnifiques passages descriptifs. Vous parlez de sculpture, Marie, on parle quand même de sculpture. Il faut rappeler peut-être que Günter Grass était sculpteur avant d'être écrivain.
Donc et il dessine aussi.
Et dessinateur. Donc il a quand même un rapport à la matière, alors cette fois-ci à la pierre, mais à la matière de la sculpture qui est très fort et qu'on sent dans le modelé de ses phrases. J'ai l'impression qu'il écrit comme il sculptait. En tout cas, c'est la vision que j'en ai. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage-là, sont reproduits des dessins, des esquisses, des croquis qu'il a fait lui-même en allant voir cet ensemble de sculptures. Donc tout ça est quand même très, on est très porté sur la sculpture. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la description de cette fameuse Uta ou Ute, je ne sais pas comment on dit Ute. Voilà, mon accent allemand n'est pas au mieux. Mais parce que il la décrit plusieurs fois, parce qu'elle le fascine, elle l'obsède complètement. Et notamment, il y a des magnifiques passages sur les yeux. Il dit que cette statue a le regard vide et selon les interprétations des guides dans cette cathédrale ou plus tard dans le livre, en fait, chacun donne une interprétation de ses yeux vides. Alors ça peut être elle a une vie intérieure très intense, ou alors ça peut être que justement le sculpteur a fait ses yeux vides parce que ça permet de se projeter. Et pour moi, enfin selon moi, l'auteur, ce qu'il veut dire dans ses yeux vides et ce qui lui plaît, c'est que comme tout son livre est un peu transhistorique, c'est-à-dire qu'on ne sait plus de quoi on parle, hein, on peut être au Moyen-Âge comme aujourd'hui, peu importe, tout ça se mélange, les yeux vides lui permet de projeter absolument ce qu'il veut dans le regard de cette statue. Et ce rapport esthétique, vraiment d'histoire de l'art à la sculpture, sous couvert d'ironie et d'agape, moi m'a beaucoup plu, et je trouve qu'il fait ça d'une façon... qui n'appartient qu'à lui. Je la lis rarement ailleurs, en tout cas en tant que romancier, et j'ai trouvé ça en effet délectable, pour reprendre votre mot, François.
François Angelier.
Oui, non, tout à fait. On parle de cuisine, ce qui peut paraître étonnant dans l'histoire de l'art et en politique, mais c'est tout à fait normal avec Günter Grass, puisque c'est quelqu'un qui cuisine tout. Alors, il cuisine le temps, il cuisine l'histoire, il cuisine les arts, il cuisine le langage et il cuisine la cuisine. Donc, on est toujours dans une espèce de manière d'apprêter les choses, ce qui est tout à fait fabuleux. Et donc, on est dans une matière, et tout fait matière chez Grass. Le temps est une matière, les individus qu'on croise le sont, de même que le sont les lieux, les climats, les atmosphères. Donc, on est véritablement dans cette espèce de mijotage permanent qui fait la littérature. Alors, effectivement, le personnage qui est reproduit en couverture, qui est une statue assez célèbre, avec déjà ce col relevé, qui est un geste assez peu fréquent et tout à fait étonnant, qui est très contemporain, qui est presque un geste de star hollywoodienne du personnage, l'indique et le signale de façon toute particulière. Par ailleurs, ce regard vide, c'est un regard qui n'est pas vide au sens où il est vacant, où il est nul, c'est un regard disponible. Et comme toutes ces statues médiévales, on peut les investir absolument comme l'on veut. Alors quand on est guide des musées de la République des paysans et des ouvriers d'Allemagne de l'Est, on y voit certaines choses. Lui, il voit encore une troisième chose, des touristes japonais une quatrième. Bon, on est toujours dans cette espèce d'investigation permanente à l'intérieur de l'œuvre d'art, qui ouvre comme ça tout un labyrinthe de signification. C'est assez extraordinaire. Et ça se poursuit, puisqu'après, il y a une sorte de déambulation européenne, à la fois à Francfort, à Milan, et devant certains bâtiments, il y a ces personnages hiératiques et immobiles, totalement grimés, costumés, et qui prennent des poses, il y a des fausses statues, qui prennent des poses de statues sur des espèces de petits caissons, et qui jouent à la statue. Alors, il y a une statue qui joue à la femme, il y a des femmes qui jouent à la statue, et Grasse qui se promène dans tout ça de manière extrêmement curieuse, incisive, et qui tente de percer les mystères. Ah, c'est vraiment, c'est pas long, bon. Mais alors, bon, il y a de quoi...
Ça devait être seulement un chapitre hein, de son autobiographie, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est des moments de vie, c'est une tranche de vie, pour revenir à la cuisine.
Tranche d'oignon. Marie Sorbier.
Il y a un autre film, moi, qui m'a beaucoup intéressée dans ce petit roman, c'est son rapport à la déception. Alors, ça finit, François, vous l'avez dit, c'est-à-dire que toute la deuxième partie du roman, il cherche le modèle de cette statue-là. Et donc, il croit la reconnaître dans ses personnages hiératiques, tout maquillés, vous savez, qui posent devant les monuments. Il finit par inviter à dîner un de ses modèles pour essayer de rentrer en contact, parce qu'il la suit depuis, quand on lit le livre, on a l'impression que ça fait des décennies qu'il cherche le modèle de cette statue. Il la trouve, et évidemment, cette rencontre, elle va être extrêmement déceptive, d'abord parce que ce modèle, elle boit du Coca-Cola, alors ça pour lui c'est vraiment, on est au bout de quelque chose, le romantisme tombe, il s'était imaginé un dîner, autrement plus spirituel que ce que ça n'est, et cette déception, elle est écrite, je trouve, alors là pour le coup, il y a vraiment, enfin moi j'ai beaucoup ri, cette fin est magnifique, on est dans un buffet de gare, et puis voilà, il se passe absolument rien, donc c'est d'abord très drôle, mais elle fait surtout écho à la déception du début, parce que dans les premières pages, quand il arrive avec sa femme visiter la cathédrale, il connaît de réputation cet ensemble de sculptures, mais en fait, quand il arrive devant, il les trouve petits. En fait, il est déçu parce qu'il voit la peinture, il reste des petits bouts de peinture, mais voilà, il reste pas grand-chose. Et surtout, on leur a dit c'est un ensemble grandeur nature, et puis quand ils arrivent, les personnages sont tout petits. Et donc, j'ai trouvé ça assez beau, comment il tissait cette déception esthétique du départ avec aussi la déception du rêve à la fin, parce que même celle qu'il rencontre, elle n'est pas à la hauteur de ses espérances.
L'expression ne pas être à la hauteur et tout à fait plus près. Oui, c'est ça, mais à partir du moment où lui, il engage une sorte de grande rêverie érudite, puisque de même que les ingrédients, il y a les ingrédients de la gastronomie, mais aussi les ingrédients de l'érudition historique, ils mijotent tous ensemble. Mais à partir du moment où on veut incarner une rêverie et incarner un rêve, on est forcément confronté à la déception. Donc la première, vous le disiez, c'est ces sculptures. Quand on est habitué, pour des raisons de scission historique, à ne pas avoir accès à une œuvre et à ne les voir qu'en photo, quand on les découvre, il y a forcément un moment de déception. C'est exactement comme quand on voit un acteur ou une actrice ou un chanteur. Bon, il y a « Ah, mais je vous croyais plus grand. Ah, je vous savais pas comme ça. Vous êtes gros. » Bon, d'accord. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire l'incarnation du rêve, l'incarnation de la rêverie amène à une espèce de déception et d'amertume. Et c'est pareil ensuite avec la jeune fille qui était figée et dans laquelle il continue à avoir un rêve de sculptural. Et puis quand elle se met à s'exprimer, enfin à révéler sa personnalité, effectivement beaucoup plus banale et beaucoup plus prosaïque qu'il attendait. Donc c'est aussi un grand livre sur la déception amoureuse.
Mais Günter Grass, vous disiez donc livre érudit aussi.
Mais c'est une érudition qui pétille, qui est
joyeuse
en permanence. Il vous tartine pas.
Non, mais c'est-à-dire sur quoi il est érudit ? Qu'est-ce qu'il nous raconte ?
Bah, par exemple sur la statuaire médiévale, déjà les premières pages de description, il faut s'accrocher sur les personnages, ces fameux 12 fondateurs. Moi, je ne les connaissais pas, je ne sais pas de qui ils parlent. Donc, il y a un contexte historique qu'on n'a pas forcément. On est en Allemagne de l'Est, voilà. Donc, c'est tout un contexte un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est pas non plus... ça arrête pas la lecture, parce que même si on ne connaît pas les personnages, bon, d'abord, il les décrit, et puis ensuite, c'est pas le sujet du livre, parce que très vite, on va aller dans la rêverie. Et là, pour le coup, on n'a pas besoin de cette érudition-là. Ce qui est beau dans l'érudition, et c'est pour ça que c'est un prix Nobel de littérature, vous savez, on se dit toujours pourquoi ils sont prix Nobel de littérature. Quand tu lis Günter Grass, tu le comprends à chaque phrase, c'est-à-dire que chaque phrase est vraiment ciselée. En fait, chaque phrase est une œuvre en soi. Moi, j'avais presque envie de le lire à voix haute. Il y a quelque chose, c'est pour ça que je parlais de mâcher les mots. Il y a quelque chose de l'ordre de la matière dans sa façon d'écrire. Et donc, c'est vraiment jouissif de lire ça. Il travaille chaque mot, chaque phrase. Alors, je ne sais pas comment c'est de le lire en allemand, malheureusement, mais j'imagine que la traduction est très bonne, en tout cas.
C'est la traduction de Olivier Manoni. Oui.
En tout cas, il s'est attaché à rendre ce côté, de la matière. Et puis, on sent qu'il y a peut-être aussi des patois de certaines régions. Par exemple, il parle beaucoup des accents, de différentes parties de l'Allemagne qu'il décrit, mais donc on sent qu'il y a des petites variations dans la phrase. Donc, est-ce qu'il mime une façon de parler de telle région ? Tout ça, c'est ressenti, même si, comme moi, on ne connaît pas grand-chose à cette région du monde ni à ce temps-là. Donc, je trouve que c'est pas une érudition qui contraint, mais plutôt qui ouvre et qui éclaircit. Et on est plus grand quand on a fini ce livre de 60 pages. C'est quand même pas mal.
Oui, François Joly.
Tout à fait, mais c'est Günter Grass est un grand écrimin sud-américain, comme chacun sait. Je veux dire, mais il a cette capacité qu'ont eu aussi, on parlait de Vargas Llosa, de, pour ne rien dire, de Borges, de Garcia Marquez, ou d'autres écrivains. Cette capacité d'être à la fois dans une espèce d'érudition, mais de fouineur, une érudition de chercheur d'or, et pas une érudition de rédacteur de fiches. Quelque chose de toujours très, très vivant. Et puis, de l'orchestrer, ça c'est les maîtres du réalisme magique, et un peu à sa manière Günter Grass est un maître du réalisme magique à l'européenne, c'est-à-dire il s'empare de toute la mémoire européenne, mais quand on dit toute la mémoire ça va même jusqu'à la préhistoire, et puis il fabrique, là le sculpteur il pétrit, il fabrique des espèces de romans qui sont un peu comme des sculptures baroques, et ça là ça joue énormément, c'est-à-dire qu'on est effectivement confronté à des données historiques qu'on maîtrise pas. Je veux dire que moi personnellement l'histoire de la sculpture gothique allemande, c'est pas un secteur sur lequel je suis impeccable, mais avec lui, ça devient une espèce de promenade en traîneau. Alors on est content, quoi, on est là avec l'oncle Günter, et c'est...
Oui, quelque chose de satisfaisant dans la lecture.
Voilà, c'est très, on file dans la campagne.
Peut-être juste un petit dernier mot de conclusion, pour dire que dans cette édition, sont reproduits des dessins de Günter Grass, et plusieurs, et j'ai trouvé ça très plaisant, pareil, à la lecture. Alors non seulement il y a la couverture où on voit cette fameuse statue, mais lui a griffonné les personnages de cet ensemble, et il y a même des notes manuscrites, et c'est toujours très agréable, je trouve, quand on parle d'art, de voir.
D'ailleurs, il faudrait continuer à lire. Je ne sais pas aujourd'hui si on lit beaucoup Günter Grass, mais ça
donne envie.
Ça mérite et il faut.
Ça marche. Prendre la pause de Günter Grass, traduit l'allemand par Olivier Manoni, et c'est aux éditions du Seuil, on ne l'avait pas encore dit.